voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. L'émission radio La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du changement. Ici, dans les jardins du Marais, rien ne se perd, tout se recycle. Yves Gillen est un défenseur du jardinage bio. Même la maison biorythme de la nature grâce à une source, une éolienne et un panneau solaire. Une démarche pleine de cohérence pour ce jardinier respectueux de l'environnement, mais aussi soucieux d'harmonie et de beauté. Au jardin du Marais, on découvre un monde d'équilibre et de plaisir. Un étonnant bestiaire d'animaux en bois, tôle ou poterie ponctue la promenade qui se termine dans la roulotte d'Yves. Rencontre avec cette graine rebelle.
Je suis né en Brière en 1945. Moi j'avais 23 ans en 1968, je courais vite. Je trouvais que les CRS étaient lourdement équipés, j'ai trouvé vieux. Maintenant je les trouve terriblement jeunes, j'ai l'impression que c'est des gamins. Mais comme je courais vite et que maintenant je cours moins vite, j'ai compris depuis longtemps qu'il fallait manifester au quotidien.
Mais donc 68, t'avais déjà ce côté de feu en toi, quoi. T'avais déjà ce côté revendicateur.
Alors, 68 n'aurait pas existé. C'est sans doute génétique. Enfin, j'en sais rien. Il y a des circonstances qui font que le sens de la révolte, on l'a depuis son enfance, sans doute. Moi, c'est ce que je crois qu'on ne change jamais. Dès l'école primaire, il y avait un curé qui m'obligeait à jouer au football. Je prenais toujours le ballon dans le dos, donc je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais dans le sens inverse de la marche. Et puis, de 15 ans à 20 ans, j'étais plutôt ce qu'on appelle une graine de bagne. Et à mes visiteurs, je leur explique qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est des herbes au mauvais endroit, mais il n'y a pas de mauvaises graines non plus. Une graine de bagne, il suffit de la mettre au bon endroit.
Pour qu'elle trouve son équilibre et qu'elle puisse s'épanouir.
Et ben voilà. Je lui disais, il suffit d'être suffisamment riche pour vivre comme les pauvres. Et j'ai cru qu'elle me croyait. En tous les cas, ça a fonctionné. On a toujours vécu avec un tout petit budget.
Par choix, parce que là, on est quand même dans un modèle économique où on essaie de nous tirer vers le haut, on veut qu'on consomme, on souhaite qu'on achète, on souhaite qu'on capitalise. Donc toi, tu étais vraiment, dès le départ, tu as senti qu'il y avait un non-sens là-dedans.
Le voyage pendant 5 ans à cheval et en roulotte nous a remis les pieds sur terre, quoi, hein, disons. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc on avait un tout petit pécule dans notre tirelire et on a pu acheter qu'un petit bout de marais.
Qu'est-ce qui a fait que tu te poses ici? Pourquoi le jardinage? Ça aurait pu être autre chose. Tu disais qu'au début, tu ne reconnaissais pas une carotte, une tomate ou d'un poireau.
Alors oui, bien sûr, c'était la recherche de l'autonomie, c'est un fait. Mais mes racines étaient sur le marais, donc je suis à proximité, je suis à quelques kilomètres de là où je suis né, d'une part. Et sachant que j'allais pouvoir, sur le plan financier, gagner ma vie en coupant les roseaux pour les vendre, pour faire des toitures en chaume, je savais que j'allais trouver mon autonomie. Et pour nous, on voyait le potager comme une démarche politique, produire sa nourriture ou une partie de sa nourriture sans compter sur les autres. Et par souci d'économie, bien sûr, puisqu'on a toujours vécu avec un petit budget. On avait bien compris que faire la course au dollar, ça n'avait pas de cesse. Tandis que faire machine arrière, c'était le temps libre, c'est-à-dire de remplir sa vie, quoi, de ne pas attendre la retraite pour vivre. Donc c'était vivre au temps présent et voilà pourquoi on a choisi cette vie-là.
Et ces 5 ans sur la route, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à y voir plus clair dans ce que tu voulais par la suite? Parce que tu aurais très bien pu, au bout de 5 ans, se dire « bon, maintenant on se sédentarise et puis on retourne mener une vie plus classique ».
Alors oui, sûrement que la roulotte 2,70 m sur 2,20 m de large, avec 4 trous, on a bien compris que les maisons étaient toujours trop grandes. D'ailleurs, je vais vous dire, la redingote en sapin, il est juste à notre pointure. Alors les maisons sont toujours trop grandes par le fait. Et je n'avais pas l'intention de signer en bas de la page. Donc ici, cette cabane, j'habite une cabane. Mais il faut savoir qu'à travers le monde, il y a beaucoup plus de gens qui habitent dans des cabanes qu'il y a de gens qui habitent dans le béton. Il y a même près d'1,5 million de gens dans la rue. Alors, ce qu'on appelle les SDF. Alors, dans la rue, plus ou moins dans la rue, ceux qui tendent la main, bien sûr, ceux qui veulent traverser la Manche à la nage, ceux qui arrivent par chance en vie sur la grève en Méditerranée. Et puis, il y a aussi les jeunes dans les camions pourris qui n'ont pas de boulot. Il y en a d'autres qui, à plusieurs, dans le même appartement. Tout ça, on pourrait dire que c'est des gens qui n'ont pas franchement de maison. Et même les plus chanceux, ceux qui ont des parents qui ont des moyens, et on voit des gamins. On a l'impression que c'est toujours des gamins au-delà de 30 ans parce qu'ils restent chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Alors, si on comptabilise tous ces gens-là, ça fait un paquet de personnes. Moi, j'ai résolu le problème de l'habitat. C'était une roulotte. J'ai construit autour avec des matériaux de récup. J'ai construit ma maison pour 17 000 francs. C'est ce qui me permet de me lever à l'heure qui me plaît, de dire ce que je veux. Jamais fait un crédit de ma vie.
17 000 francs. Donc, tu as construit ta maison là où on est. Donc, ce lieu de vie, ça t'a coûté 17 000 francs, soit...
Ça fait 3 000 euros. Entre 2 500 et 3 000 euros, quoi, si on veut aller par là.
Ouais. Je reviens quand même à cette histoire de roulotte à deux. Est-ce qu'il y avait un projet? Quel était le but? Pourquoi vous avez choisi de prendre la route pendant 5 ans?
Annick pour écrire et moi pour peindre et pour fuir cette civilisation qui avec qui on n'était pas en harmonie, quoi. Rêver sa vie, quoi. On s'est dit, bon, allez, on va aller rêver notre vie, et on a commencé par là. C'était un début, quoi. L'histoire de la roulotte, c'était s'échapper de la ville.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, ici, jamais raccordé à la bombe atomique. Ouais, les gens qui me reprenaient autrefois, ils me disaient, hey, oh, c'est pas une bombe, c'est une centrale. Eh bien, j'aimerais bien qu'ils me tiennent tête à l'heure actuelle. Je leur dirais, allez donc poser la question à Tchernobyl ou à Fukushima pour savoir si c'est une bombe ou si c'est une centrale. Je vois pas la différence. Et jamais raccorder. Donc la manière de militer, bien sûr que j'ai milité, j'ai pris quelques grenades lacrymogènes, mais je me suis dit militer c'est faire autrement, quoi. Donc ici, dès 1979, on installe ce petit aérogénérateur que vous verrez rarement tourner, parce que quand vous n'avez pas besoin de votre voiture, vous coupez le contact. Quand j'ai pas besoin d'éolienne, je la freine. Alors l'éolienne est placée au plan secondaire, mais en 1979, je ne connaissais pas l'existence du photovoltaïque, et vous non plus, très certainement. Alors, le premier réflexe qu'on avait, nous les écolos, et d'ailleurs, je me rends compte que tous les jeunes qui veulent nous imiter, quoi, en quelque sorte, enfin, se retourner vers l'autonomie énergétique, toujours le réflexe l'éolien. Alors, l'éolien, le petit éolien, je n'ai rien contre le grand éolien, car je crois bien que c'est l'énergie du futur. Mais le petit éolien, c'est une source d'ennui quand même, parce que d'une part, à moins d'avoir un site, d'être sur une île déserte, enfin en quelque sorte, et d'avoir une éolienne à 2 mètres de haut, bon, pour la maintenance, ce serait d'une grande facilité. Mais dès l'instant que c'est une éolienne, c'est sur un mât, donc c'est l'entretien. Jusqu'à quel âge doit-on monter, l'agresser une fois par an, la préparer, la repeindre tous les 3-4 ans. Enfin, il y a une maintenance, donc c'est... Quand même, j'essaie toujours de dissuader les jeunes. Je dis, si vous avez un pécule, enfin une certaine somme à consacrer aux énergies renouvelables, d'abord et avant tout le photovoltaïque. J'ai des panneaux qui datent de 1980, sont toujours en état de marche. Reste à savoir si les plus récents vivront aussi longtemps.
Et quels sont tes besoins en énergie ici? Donc tu parlais des ampoules, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vois pas forcément de télévision. Est-ce que tu as un frigo? Quels sont les...
Si, il y a une télévision. Il y a le strict minimum. Alors une télévision, il y a souvent des gens qui me disent « Ah bon ?» Une télévision, si, puisque je ne veux pas voyager. J'ai horreur de voyager. Je voyage avec mes visiteurs, avec les livres que j'achète et les documentaires de la télévision. La télévision, oui, mais pas de jouets électroniques dans ma maison, ni dans ma poche, ni dans ma voiture. Donc, c'est-à-dire pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, car l'ordinateur, je bataille contre cette machine infernale. Je la trouve infernale puisqu'il y a 10% de bonnes informations, ça veut dire qu'il y a 90% de merde. Donc le temps que la souris trouve le trou, et moi je suis un autodidacte, je préfère prendre un livre, il n'y a pas de cordon ombilical relié à la bombe atomique. Alors un réfrigérateur, mais là, grand dilemme, il a 17 ans, il vient de tomber en panne. Je suis en train de passer l'été sans frigo depuis 1998, étant pratiquement végétarien, très peu de choses à conserver. Donc il y a une couscoussière en inox qui sert de réfrigérateur, et dans le sol aussi un trou. Mais le réfrigérateur que j'utilise, évidemment, je produis du 24 volts courant continu, donc je n'ai que du matériel en 24 volts courant continu, pour être au plus précis de sa consommation et de sa production. Le réfrigérateur que j'utilise consomme 5 fois moins que les vôtres. Car il faut savoir qu'un réfrigérateur qui a la forme d'une armoire, c'est-à-dire quand vous prenez un yaourt, vous ouvrez la porte, vous mettez le froid sur les pieds, vous refaites le plein d'air chaud. Le réfrigérateur, si on mettait un compteur sur un réfrigérateur, c'est l'appareil qui consomme le plus dans une maison. Alors, je ne parle pas du chauffage électrique, bien sûr, parce qu'il n'y a pas pire aberration écologique que d'avoir un chauffage électrique. Mais entre la machine à laver et le réfrigérateur, dans une maison, c'est le réfrigérateur qui consomme le plus.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Est-ce que tu arrives à budgétiser à peu près combien te coûte par mois la nourriture? Est-ce que tu vas acheter, ou peut-être, on va parler argent, est-ce que tu peux me parler un peu de ton modèle économique? Donc comment est-ce que tu gagnes de l'argent et qu'est-ce que tu dépenses? Quels sont les différents postes des dépenses mensuellement?
On a eu notre retraite en même temps. Moi j'avais 4 ans de plus qu'elle, donc j'ai eu à 65 ans. On a bossé un petit peu de ci, de là, de temps à autre, avant de faire le tour de France à cheval et en roulotte d'une part. Donc on avait 350 euros chacun de retraite. Et avec la reversion de sa retraite, j'ai en ce moment 470 euros. En temps normal, je ne les dépense pas. J'essaie d'aller à la station d'essence qu'une seule fois par mois. C'est-à-dire, je vais à la moitié de mon réservoir et en principe, j'ai une trentaine, 30, 35 euros d'essence par mois. Et je dis toujours que cette voiture-là, si elle tombe en panne, c'est pas sûr que je la remplace. Si le téléphone tombe en panne, je crois que je cesserai d'avoir un téléphone et aussi la voiture. Car on s'en passait il y a pas si longtemps que ça et je crois qu'on peut s'en passer aisément.
Mais ça n'a pas été un effort de ta part de faire marche arrière, c'était vraiment quelque chose de naturel ou de spontané?
Moi, je suis parti dans le sens inverse de la marche, hein, comme je vous disais, et pour moi, c'est la seule route que je pouvais prendre. Je n'en vois pas d'autre, et à 70 ans, je n'en vois pas d'autre. Jamais il m'est venu à l'esprit de repartir avec le peloton, le gros troupeau, quoi. Non, pas du tout. Je vois pas. J'ai jamais imaginé cette formule, quoi. Mais on est tous sur le même bateau. Voilà pourquoi je dis, si cette planète subit des catastrophes, c'est pas parce qu'on est écolo qu'on sera épargné. Hein. C'est pas parce qu'on a refusé d'être accordé à la bombe atomique que si un réacteur qui pète, on aura tous la même.
Le même sort, mais moi, on n'y aura pas contribué.
Voilà, donc c'est ce qu'avec Annick, on se disait, au moment où il faudra enfourcher notre étoile filante, on se dira au moins, on n'a pas trop participé à bombarder le paradis que Michel Serres dit qu'il n'y a que l'homme pour faire une connerie pareille.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Le luxe, justement, de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas la misère, c'est un luxe. Et la pauvreté, c'est la liberté.
Quand elle est choisie.
Ah bah oui, bien sûr, oui.
Les petits trucs et astuces que tu conseillerais ou tu donnerais à ceux qui souhaitent dépenser moins ou suivre un petit peu le chemin de la décroissance ou de la sobriété?
Quand je vois les gens qui manifestent pour leur atelier qui ferme, enfin les gens... On crée la psychose du manque d'emploi. Et j'aimerais voir mes contemporains avec des banderoles en disant « On ne veut plus travailler ». Et je crois que là, on aura gagné. on aura tout compris. On ne veut plus travailler, les banderoles. Ils veulent toujours travailler. Mais, alors, ils veulent travailler pourquoi? Parce que nos hommes politiques leur filent la psychose du manque de boulot. Chacun veut conserver son emploi pour payer sa bagnole qui sert pour aller au boulot, qui s'use sans arrêt, qu'il faut rechanger au bout de quelques années, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une chose qui vaut le coup d'être vécue dans la vie, c'est la création artistique. D'ailleurs, le conseil que je peux donner, tout au moins de prendre une année sabbatique pour construire sa cabane, sa maison. Parce que si on prend le temps de faire sa maison, ça doit être un nid, ça doit être un chef-d'œuvre. Celui qui prend une année sabbatique pour faire sa maison, c'est l'année où il sera le mieux payé de sa vie. Alors, signer en bas de la page, c'est pas la meilleure formule, hein, vous allez la payer trois fois. Quand même, quand on me pose la question pourquoi j'ai choisi cette vie-là, c'est pour me lever à l'heure qui me plaît. À chacun son horloge biologique. Et moi, je me lève, ce matin, je me suis levé, il était 8 heures. Et encore, je trouvais que je m'étais levé de bonne heure ce matin. Mais la plupart du temps, je me lève entre 8h et 8h30. Et je dis, c'est bien assez tôt pour faire des conneries. Car à chacun ses conneries. Bon, moi, il y en a qui trouveraient qu'à désherber à longueur de jour, c'est des conneries. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qui nous plaît dans la vie. Je veux bien la remplir, c'est pour ça que je jardine, à chacun ses conneries, mais le soir, sur mon agenda, je note tout ce que j'ai fait de la journée. Et là, j'ai eu l'impression de remplir ma vie, d'être heureux, de me coucher en me disant au moins je vais pouvoir dormir tranquille, d'une part, ne pas être réveillé par des armes automatiques. Ça, c'est le luxe qu'on a pour l'instant, espérer que ça dure, mais ce qui n'est pas le cas pour tous les hommes de la planète, hein. Et alors, je note sur mon agenda, et c'est mon ordinateur, j'ai pas besoin de cordon ombilical à bombe atomique.
On a parlé un peu de la journée, hein, où tu me disais que tu écrivais tout sur la journée.
J'ai choisi cette vie-là pour me lever à l'heure qui me plaît. Il me faut 8 heures de sommeil, donc si j'éteins à minuit, je suis jamais avant 8 heures debout. Et c'est bien assez tôt pour faire des conneries. Après, je suis toujours en retard puisqu'ils nous changent les horaires. Bon, moi, ma pendule reste à l'heure d'hiver. Et l'heure d'hiver, c'est déjà une heure d'avance par rapport au soleil. Donc, je suis déjà en retard par rapport au soleil. Mais après, j'essaie de me rattraper un peu aux branches. C'est-à-dire, je bosse jusqu'à la nuit tombante. Et alors, je jardine 24 heures sur 24. Hein, ça, vous l'avez remarqué. Je suis pas de Marseille, mais jusqu'à la nuit tombante pour mon plaisir et celui de mes visiteurs. Le soir, en lisant des livres sur le jardinage, bien sûr, j'en ai toujours deux ou trois d'avance et j'aurais passé d'une vie pour tout lire. Et puis après, la nuit, en rêvant de jardin. Voilà, donc comment je remplis mes journées. Alors que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne ou l'été, c'est toujours évidemment. Les jours sont plus courts à certains moments, plus longs parfois. Je m'adapte aux circonstances, mais pour être heureux, il faut jardiner, donc je jardine tous les jours. On a vécu longtemps avec un minuscule budget quand on était jeune, et c'est là où on aurait peut-être eu le plus de besoins. Quand en vieillissant, on se retrouve avec un pécule. Donc dès que je vais avoir fini d'acheter ces bouts de terrain, je les achète en pacte tontini avec ma fille aînée, puisque je ne pourrais pas lui léguer autant de choses qu'aux autres, puisqu'elle sera obligée de rembourser 60% à l'État, étant donné qu'elle a eu un premier nom, elle aura beau changer son nom. Mais après, je garderai un peu de réserve, puisque tout le monde me dit d'être prudent, mais j'ai trois livrets d'épargne et je vais m'en débarrasser de deux, donc je vais les donner aux enfants.
Qu'est-ce que c'est que le bonheur ?
Alors, le bonheur, ça se fabrique. Ce n'est pas à vendre, et heureusement, parce que je crois que les plus riches auraient déjà tout accaparé.
Et quels sont tes besoins ?
En vieillissant, on a de moins en moins de besoins. Je ne vois pas vraiment. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas vraiment de besoins.
Ton rêve ?
Le rêve, il y a longtemps que je le vis. Ouais, et j'ai commencé, dès 1970, à rêver ma vie, parce que la réalité est trop dure. Donc je pense, et quand souvent les gens, quand ils viennent ici, ils voient parfois, ça leur donne l'impression d'avoir plein de légumes dans le jardin. Il y a juste ce qu'il faut, ou si j'en ai un petit peu plus, j'en donne à mon entourage. Mais je ne vends que du rêve, et j'essaie de rêver ma vie.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque, tous les deux mois.